Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des...
Ça, j'y joue beaucoup.
Hashtag.
Déclic, le nouveau magazine des nouvelles écritures sur Radio Campus Paris.
Bonsoir, bonsoir et bonne année, bienvenue dans Déclic, le rendez-vous mensuel radiophonique où l'on vous parle de nouvelles écritures à la frontière du cinéma, du jeu vidéo ou encore du documentaire. Le mois dernier, nous recevions Camille Ducellier qui nous présentait son projet Reboot Me, une expérience numérique et spirituelle qui nous faisait découvrir la sorcellerie contemporaine. Émission toujours accessible en podcast d'ailleurs sur la page de Déclic sur le site radiocampusparis.org. Et ce soir, nous vous proposons une émission un peu particulière pour commencer l'année, puisque nous allons recevoir deux invités pour le prix d'un, qui viendront nous parler d'un nouveau média qui pourrait changer à jamais notre relation aux images, au virtuel et même à la réalité. Nous allons parler en compagnie de Charles Ayatz et de Raphaël Beaugrand de Réalité Virtuelle. Alors, qui dit émission exceptionnelle dit organisation exceptionnelle. Nous aurons comme chaque mois autour de la table Christine Siméon et Oriane Hurard, mais nous n'aurons pas le pas de côté. La chronique de Rémi Reboulet et Marine de Saint-Seine. Oubliez la réalité, préparez-vous à une immersion d'une heure dans un monde parallèle. Déclic, épisode 4, c'est parti.
Déclic, parce que le monde bouge.
Alors pour ce numéro spécial de Déclic consacré à la réalité virtuelle, nous avons décidé de vous en montrer en fait deux versants opposés, avec d'un côté un projet de fiction réalisé en images de synthèse et de l'autre quelqu'un qui utilise la réalité virtuelle pour faire du journalisme et du documentaire. Nous recevons donc Charles Ayatz, designer interactif. Vous avez travaillé sur quantité de projets ces dernières années. On peut notamment citer le jeu Type Rider qui se déroule dans l'univers de la typographie ou plus récemment Tati Express, un jeu qui se déroule dans l'univers de Jacques Tati, donc comme son nom l'indique. Et donc plus récemment, vous développez des projets en réalité virtuelle, dont le projet Sens, dont nous allons parler avec vous aujourd'hui. Bonjour Charles.
Bonjour à tous, merci pour l'invitation.
Mais de rien. Et à vos côtés, nous avons donc Raphaël Beaugrand, donc journaliste, reporter multimédia, auteur du web documentaire Paroles de conflit, pour lequel vous aviez voyagé 10 000 km en vélo à la rencontre de personnes vivant dans des zones de conflit récents. Et aujourd'hui, vous travaillez comme reporter en réalité virtuelle, c'est comme ça que vous vous présentez, chez Okio Studio. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir.
Donc l'idée de cette émission, c'est de faire découvrir au grand public la réalité virtuelle, car même s'il y a des prototypes qui circulent dans les salons depuis un an ou deux, et que les premiers casques Oculus Rift sont disponibles en précommande sur Internet à un prix exorbitant, eh bien cette technologie reste encore très largement inconnue du grand public. Alors avant de discuter de la technologie et de parler dans le détail de vos différents projets, on va écouter une petite introduction d'Oriane Hurard qui va expliquer un petit peu à nos auditeurs profanes ce qu'on peut plus ou moins dire quand on parle de réalité virtuelle.
Ce que l'avenir vous promet,
Déclic
vous l'apporte.
Alors Oriane, pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui sont pleins d'une curiosité tout à fait saine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la réalité virtuelle ?
Eh bien, je peux vous raconter plein de choses, car ces deux dernières années, j'ai grimpé sur le mur de Westeros, j'ai volé au-dessus de San Francisco, j'ai écouté Patrick Watson dans son studio et j'ai même eu un eye contact avec un dinosaure. Tout cela, oui, grâce à la réalité virtuelle, aussi appelée VR pour les intimes. Sans remonter à Platon et à sa caverne, on peut définir simplement la réalité virtuelle comme une simulation du réel par des moyens interactifs et informatiques. Concrètement, aujourd'hui, ce qu'on nomme communément la réalité virtuelle prend la forme prosaïque d'un casque de ski plus ou moins imposant que l'on pose sur sa tête pour s'immerger dans un paysage à 360 degrés. L'Oculus Rift, le premier casque, a été conçu dans un garage californien par Palmer Luckey, aujourd'hui âgé de 23 ans. En avril 2014, le jeune homme est devenu milliardaire en revendant son entreprise à Facebook. Au-delà de la mythologie typique de la Silicon Valley, ce qui a vraiment été inventé dans ce garage finalement, c'est sans aucun doute le début d'une révolution dans la manière de raconter des histoires. Le jeu vidéo, le porno, la publicité, mais aussi et surtout le cinéma se sont emparés de cette technologie qui s'est rapidement imposée comme une toute nouvelle perspective de narration et de divertissement. Grâce à la VR, les limites de l'écran de cinéma, de télévision ou de téléphone mobile s'effacent. Le médium disparaît pour laisser place à une immersion complète. chaque mouvement de tête réel est reproduit dans le monde virtuel. La grammaire même du cinéma, qui est plus ou moins la même depuis un siècle, s'est vue bouleversée par l'usage de cette immersion à 360 degrés. Et niveau contenu, deux visions de la VR vont s'opposer. La première centrée sur des sensations fortes. Paysages magnifiques, sport extrême, guillotine virtuelle. L'effet waouh est garanti, encouragé par les éditeurs et les fabricants de jeux vidéo qui semblent considérer la réalité virtuelle comme un nouvel Eldorado. Mais aussi encouragé par Hollywood qui a récemment multiplié les adaptations VR de blockbusters, de Game of Thrones à Interstellar, de Seul sur Mars à Divergente. Et le second versant de la VR, de la réalité virtuelle, c'est une exploration plus intime, plus sensible, des possibilités immersives et narratives de ce nouveau médium. Étant légèrement sujette au mal des transports, je vous laisse deviner laquelle de ces deux visions a ma préférence. Ainsi, début 2014, les Québécois Félix et Paul ont créé un des premiers films pour Oculus, réalisé en 3D stéréoscopique avec une caméra qu'ils avaient eux-mêmes conçue. Plutôt qu'une expérience à sensations fortes, les deux réalisateurs ont proposé, tout simplement, sous forme de plan-séquence de 8 minutes, une visite dans le studio du musicien canadien Patrick Watson, comme si on y était. Depuis, les projets se sont multipliés, et les lieux pour les découvrir également. En 2 ans, au Festival Tous Écrans à Genève, nous sommes passés de 5 à 17 projets exposés, en sélectionnant cette année des œuvres allant de Jurassic World à des reportages en Syrie, en passant par une performance interdite aux moins de 18 ans. Et la semaine prochaine, c'est Sundance qui va également exposer plus d'une trentaine d'œuvres inédites, relevant aussi bien de la fiction que du documentaire. La richesse des œuvres disponibles, ou qui sont sous forme de prototype ou encore en cours de production, révèle à quel point ce nouveau moyen de raconter des histoires a enflammé aussi bien les fabricants, les startups que les créateurs. Chris Milk, Vincent Morisset se sont ainsi emparés avec poésie de ces nouvelles formes, mais également le photojournaliste Karim Ben Khalifa, dont le projet The Enemy proposera bientôt une expérience déambulatoire et multijoueur. Citons encore The Doghouse du Danois Johan Jensen qui proposait dès 2014 une expérience collective autour d'un dîner de famille à la Festen, ou encore Birdly du Zurichois Max Reiner, une simulation de vol extraordinaire qui a fait le tour du monde. Et très bientôt, on pourra aussi comprendre la cécité à travers les expériences d'un théologien dans les années 80 ou encore rencontrer, peut-être en personne, Philippe Kadic. Force est donc de constater qu'il y a un avant et un après l'expérience en réalité virtuelle. Aujourd'hui, 2 ans après la découverte de la réalité virtuelle lors de festivals comme South by Southwest à Austin, la majorité des casques n'est toujours pas commercialisée et prévoit une sortie courant 2016. La semaine dernière, comme tu l'as dit Alexandre, Oculus a déçu les partisans d'une réalité virtuelle bon marché, puisque leurs casques bientôt disponibles dans tous les foyers seront proposés à la précommande à partir de $600. Heureusement, il nous reste les casques Samsung, accouplés à un téléphone Samsung, ou encore les bons vieux cardboard de nos amis Google pour faire une expérience plus low-tech de la réalité virtuelle. Il existe évidemment d'autres casques, je pense qu'on y reviendra. Pour finir, la réalité virtuelle est quasiment devenue un genre à part entière qui se situe, à mon sens, encore au niveau des débuts du cinéma, quand il était à la fin du 19e siècle, entre exhibition foraine et tâtonnement technique. On attend avec impatience les futurs Georges Méliès de la réalité virtuelle.
Effectivement, Georges Méliès qui sont peut-être déjà en train d'apparaître sous nos yeux sans qu'on s'en rende compte. Merci Oriane pour cette chronique. Alors peut-être qu'on a effectivement un des deux Georges Méliès autour de cette table aujourd'hui, mais sans présumer de la postérité de leurs œuvres respectives, je voudrais déjà leur demander qu'est-ce qui, en tant qu'auteur, en tant que réalisateur, leur a donné envie d'aller se frotter à la réalité virtuelle. Pourquoi se lancer dans ce format? Qu'est-ce qui a été le déclic justement pour commencer à utiliser la réalité virtuelle?
Pour ma part, tout d'abord, ça a été les premières expériences, le jour où vraiment on pose un casque comme ça sur sa tête et on découvre vraiment un univers, une façon de recevoir l'information, les contenus, le divertissement. Enfin, tout un imaginaire nous arrive et on a vraiment notre corps qui réagit d'une façon dont on n'a pas l'habitude, en fait. Mmh. Et cette possibilité qui est la base de la VR, de pouvoir tourner tout autour de soi et regarder sous ses pieds, au-dessus de sa tête, et de découvrir qu'on est dans l'imaginaire, dans la fiction ou dans le documentaire. Enfin, vraiment, on est téléporté dans ce nouvel espace. Ça provoque vraiment des sensations qu'on n'a pas l'habitude. Mmh. Et moi, par exemple, la première expérience que j'avais faite, c'était... ça faisait partie des démos d'Oculus Rift. Et je me trouve devant une petite maison qui est à une échelle différente de d'habitude. Et au moment de passer le seuil de la porte, je me retrouve à me baisser et me sentir un peu à l'étroit à l'intérieur de tout ça, parce que voilà, les proportions sont telles que le cerveau a du mal, n'est pas habitué à faire la différence et se retrouve vraiment plongé dans une réalité qui n'est pas la nôtre habituellement.
D'accord. Raphaël Beaugrand, c'est une expérience similaire qui vous a initié à la réalité virtuelle, ou c'était tout le temps dans le réel, votre immersion ?
Alors, j'ai découvert la réalité virtuelle, en tout cas les prémices de la réalité virtuelle, avec Dan Fung Dennis, qui est un de mes amis journalistes et réalisateurs, qui a fondé Condition One et qui avait envoyé Patrick Chauvel à l'époque en Libye pour filmer avec un grand angle la guerre en Libye, à Misrata. Et l'image, on pouvait découvrir à 180 degrés le paysage auquel était confronté Patrick Chauvel. J'ai vraiment fait la première expérience de réalité virtuelle il y a un an et demi de cela. Et journaliste, je suis, et en ayant découvert cette technologie, je me suis dit qu'il n'y avait pas meilleur moyen de retranscrire une réalité à laquelle je suis confronté et de la communiquer aux gens qui me suivent. Mmh. Donc c'était surtout, pour moi, le journalisme poussé à son extrême. C'est-à-dire que là, le journaliste ne choisit pas le cadre. Le cadre est le cadre réel qu'il est en train de filmer. Mmh. Ça implique certes que le spectateur soit plus actif que passif en choisissant lui-même le cadre qu'il a envie de découvrir. Mmh. Mais pour moi, il n'y a pas expérience plus probante de destruction en Syrie que de découvrir une ville détruite en Syrie et de la découvrir par soi-même comme si on y était, comme si on était transporté réellement dans une réalité qui existe réellement. Donc c'est pour ça que moi, le virtuel me gêne un petit peu, parce que ce que je fais n'a rien de virtuel.
D'accord, il y aurait comme une forme d'objectivité dans la reconstitution en réalité virtuelle qui est moins facile à retrouver dans d'autres
Je propose aux spectateurs d'être à ma place.
D'accord. Christine Siméon
Oui, pourquoi c'est du meilleur boulot de journaliste avec la RV?
C'est pas du meilleur boulot, il n'y a pas de question de juger la qualité ou pas. C'est-à-dire que le média, le médium, et pour moi, la meilleure façon de retranscrire ce qu'un journaliste a vu quand il était sur le terrain.
Parce que si tu dis la ville est détruite, c'est pas pareil que si tu la montres, la ville est détruite.
Alors, si tu dis que la ville est détruite et que tu proposes à la personne d'aller constater les dégâts, tu peux imaginer de manière réelle l'état des destructions.
Donc tu veux dire que c'est ces émotions qui vont entrer en ligne de compte, du coup?
Ce sont les émotions de chacun. Je ne parle pas du fait qu'elles vont rentrer en ligne de compte ou pas. C'est libre. Enfin, la personne réagit comme elle doit réagir. Mais en tout cas, la personne est à un endroit, virtuellement à un endroit, pour découvrir une réalité qui est pour le coup bien réelle.
Alors justement, puisqu'on parle juste des réactions des personnes quand elles découvrent la réalité virtuelle, je vous propose d'écouter tout de suite un extrait qui s'appelle, qui est issu d'une chaîne YouTube qui s'intitule Elders React 2. Et donc c'est une chaîne YouTube en fait où on met entre les mains de personnes âgées des nouveaux produits technologiques et on filme en direct leurs réactions. Donc là, je vous propose d'écouter 30 secondes d'un extrait de la vidéo où en fait on leur a mis un casque Oculus Rift sur la tête. Et on les plonge dans un univers en images de synthèse qui simule en fait des montagnes russes. Écoutez leur réaction.
Oh non, 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 non. I really am scared of heights.
This is higher than the cyclone.
Oh, oh, ugh. No.
Oh god, oh god, oh god.
Actually on a roller coaster.
My goodness. Yeah, here we go.
I'm closing my eyes now. No, there's no way.
Oh, let's not do this.
Oh, shit. Oh, no.
Whoa.
It's making me nauseous.
There! Oh, my goodness, that turned your stomach!
No, 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 no.
Man, this feels like you're really on a ride.
Donc je ne sais pas si vous aviez vu cette vidéo, donc Elders React to Oculus Rift, mais effectivement on voit que manifestement, quand ils sont en train de tester le dispositif en réalité virtuelle, les personnes ont un peu du mal à distinguer la réalité concrète de ce qu'ils sont en train de voir, parce que on les voit qui crient, il y en a certains qui disent qu'ils ont envie de vomir, il y en a qui disent « ah non, j'ai le vertige, moi je peux pas regarder ça ». Et la différence, c'est que quand on est dans une salle IMAX ou dans une salle 3D, on va dire, enfin à 360 degrés, on peut à la limite sortir du cadre, et là on voit les gens instinctivement lever la tête ou essayer de la sortir, mais vu qu'ils ont toujours le casque sur les yeux, en fait ils sortent pas toujours de cette réalité, donc c'est pour ça que parfois les crises prolongent un peu. Est-ce que vous avez quelque chose à dire vis-à-vis de ça, la distance qu'on peut établir peut-être plus difficilement quand on est immergé dans la réalité virtuelle par rapport à d'autres formats?
C'est vrai que cette vidéo, elle est assez démonstrative de l'effet que ça peut produire chez certaines personnes. Après, je suis assez contre faire tester cette application-là de la montagne russe à un public non averti, parce qu'en fait, elle est mal réalisée dans le sens où elle casse aujourd'hui, il y a un début de grammaire autour de la VR sur qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, en fonction des distances, en fonction des travelling, en fonction de... Donc ce qui est par exemple, on nous conseille de faire des travelling avec une vélocité constante pour ne pas provoquer comme ça de sensations de malaise. Mm-hmm. Et cette vidéo, enfin cette application en est un parfait contre-exemple en fait. Et du coup, moi j'ai fait tester à beaucoup de gens parce que j'ai un Samsung VR que j'ai souvent dans le sac et je l'ai fait tester à mes grands-mères. Et j'ai fait tester des applications, donc par exemple Evolution of Verse, justement du studio Verse et de Chris Milk. Et voilà. Et
donc
les
c'est
gens...
quoi Evolution of Verse
on est plongé dans, au début, on est dans un paysage, dans un cirque montagneux. Et donc il y a un train au loin qui arrive doucement et qui nous fonce dessus. Et après, donc je vais spoiler un petit peu, désolé, mais voilà, il explose en murmuration des tourneaux, ensuite on rentre dans... Enfin voilà, il y a tout un petit voyage comme ça, un peu...
Une dimension poétique, quoi,
une dimension poétique. Et j'ai fait tester à mes deux grands-mères, et elles n'étaient pas comme ça, dans une euphorie. Mmh. Elles ont vraiment apprécié. Alors pourtant, il y a une petite sensation comme ça, du train qui nous arrive en pleine figure. Mais voilà, enfin... Faut se méfier des vidéos YouTube. Voilà,
c'est un conseil qui vaut en général, quoi.
Voilà.
Et l'idée que en fait ces réactions-là, où il y a souvent un parallèle qui est fait entre les premières réactions qu'on peut avoir quand on voit la réalité virtuelle et les premières projections qu'avaient fait les frères Lumière de l'arrivée du train en gare de la Ciotat, où on ne sait pas si c'est la légende ou la réalité, mais soi-disant les gens se cachaient derrière les sièges parce que notre cerveau n'était pas encore câblé pour distinguer la différence entre une image projetée sur un mur et la réalité. Est-ce que de la même manière, il n'y a pas aussi un même travail de câblage neurologique à faire avec la réalité virtuelle et qui est en train de se faire maintenant?
Ça dépend des contenus, ça dépend vraiment des contenus, mais en tout cas ce qui a été vu, c'est qu'il y a des parties du cerveau qui ont été activées par la réalité virtuelle qui ne sont pas avec la télé ou avec une image simple.
D'accord. Et des parties du cerveau qui relèveraient de...
Alors, je suis pas spécialiste. Non, je suis pas spécialiste de ça, mais en revanche, c'est des parties du cerveau qui provoquent des émotions que la télé ne fait pas réagir.
D'accord.
Et il y a une notion qui colle un peu avec ça, c'est la notion de proxémie. Donc c'est la distance entre deux personnes quand elles interagissent entre elles. Et par exemple, il y a le court-métrage Wave of Grace, où à la fin, on se retrouve avec une personne qui regarde l'océan, et la caméra est très très proche de son visage. Et c'est une posture qu'on a rarement quand on parle à quelqu'un habituellement. Et du coup, là, on a tous les détails, on a ses mimiques, on a vraiment un ressenti différent. Et pour revenir à ce fameux train en gare de la Ciotat, quand on essaye certaines applications VR, notre corps réagit vraiment. Il y a des gens qui suent, il y a des gens qui font de la buée même sur les lentilles du casque. Et parce qu'on est provoqué... cognitivement, donc, et par notre perception, et il y a vraiment quelque chose de corporel qui est inhabituel. Et donc, je n'ai pas trop de mal à croire que les gens ne sont peut-être pas partis en courant lorsqu'ils ont vu cette scène-là, mais au moins, ils ont peut-être mis la main par réflexe devant leur visage ou réagi d'une façon inhabituelle.
Et là, jusqu'à présent, on a parlé des expériences en réalité virtuelle qui étaient statiques, mais il y a également des formes de dispositifs réalité virtuelle dans lesquels on peut se déplacer, je crois.
Alors le mouvement, il n'est pas énorme, hein. On ne peut pas non plus aller... Et puis tant mieux d'ailleurs, parce que la personne ne verrait pas l'environnement qui l'entoure et pourrait se prendre un mur. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore abouti au point de reproduire ce que la réalité permet.
Et parce que qui dit mouvement dit capteur, de toute façon, pour enregistrer les mouvements de la personne. Donc Plus il faut que ça bouge, plus il faut des kilomètres de capteurs éventuellement. Pour...
Après, ils commencent à tester. On a vu lors d'une dernière conférence sur les jeux vidéo, Microsoft qui testait un dispositif en réalité virtuelle avec des combinaisons qui permettaient donc d'avoir une représentation de son corps également dans la réalité virtuelle et donc d'avoir des interactions.
Mais en fait, ça existe déjà de façon peut-être plus simple, mais avec le casque HTC Vive, donc de Steam. Et donc, c'est cette possibilité en fait de. Donc on est raccordé avec un câble quand même avec un ordinateur, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant par rapport à vos solutions de téléphone portable. Et là, ce qui est la différence des autres supports, même si le casque PlayStation VR rentre un peu dans cette dynamique aussi, c'est on voit nos mains.
D'accord.
Et comme on vient de le dire, il y a aussi des capteurs de déplacement corporel, et en fait on peut se déplacer sur une pièce de 4 mètres sur 4 mètres.
D'accord.
Et ça change énormément d'avoir son corps qui est plongé virtuellement, parce que il y avait un exemple où il y a des choses cachées sous la table, bah, il faut se mettre à quatre pattes pour aller voir sous la table ce qui se passe. Et voir ses mains, ressentir ses mains avec un taux de latence quasiment parfait, ça plonge encore le cerveau dans une simulation plus proche.
Alors là, en termes de câblage, j'imagine qu'il y a encore une autre étape à passer où
c'est
non
sûr.
Seulement on est immergé à 360 degrés dans un univers, mais en plus notre corps est lui-même différent dans cette réalité.
Tout à fait.
Et donc, je voulais vous faire écouter un second extrait, qui est extrait en fait d'une conférence qui était intitulée « Narration spéculative et jeux vidéo » qui avait été donnée à l'espace Chiasma qui se trouve au Lila, lors du festival Relecture. L'intégralité de la conférence est disponible sur le site de la web radio R22, et c'était une conférence qui était consacrée à justement la narration au sein des jeux vidéo, et la discussion avait bifurqué sur la reproduction de la réalité au sein des jeux vidéo. Donc on va vous mettre le lien vers la conférence sur la page Facebook de Déclic, mais je vous propose d'écouter l'intervention de Olivier Marbeuf, qui est donc le directeur artistique du centre Chiasma, et d'écouter vos réactions par la suite.
Ce qui me questionne le plus dans cette forme-là, c'est sa volonté de simuler une chose qui n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'en gros, un roman, c'est donc des pages blanches avec un texte dessus. Alors maintenant, c'est relié ou c'est sur une tablette, mais toujours est-il que le truc affiche ses limites de manière super cash, et que bon, bah t'y vas et tu pleures à la fin comme un con sur un truc, ou t'es en colère. Mais le truc, il est cash, quoi. Gars, réveille-toi, c'est juste des lettres noires sur un fond blanc. Et quelque part, bon voilà, donc ça, c'est la culture humaine, notre mémoire, nos émotions, la manière dont on... Là-dessus, j'ai envie de dire que la notion de simuler le réel n'est qu'une affaire, comment dire, le contrat est relativement clair. Et quelque part, l'une des qualités des arts qui ont précédé est paradoxalement dans leurs limites plutôt que dans leur capacité infinie. Un tableau, c'est parce que franchement, ça ne ressemble pas au paysage lui-même que c'est intéressant. Parce que sinon, en fait, tu vas voir le paysage, effectivement.
Ben voilà.
Donc, c'est plutôt la limite, donc le bord du tableau qui définit le tableau. C'est la limite de ce que c'est qu'un... Là, avec le jeu vidéo, se joue... Mais jeu vidéo, on va dire, étendu, hein, de ce que ça va toucher, on va dire, d'expérience audiovisuelle, numérique, parce que ça va être quelque chose, à mon avis, qui aura même plus ce nom-là, peut-être. Parce que le terme de jeu, je pense, risque de disparaître à la faveur du terme d'une expérience, quoi. Quelque chose où on ne sera pas qu'en train de jouer.
Ce ne sera pas que vidéo, parce que c'est voir, ce sera effectivement autre chose.
Ouais. Ce sera quelque chose d'un peu plus vaste. Ouais. Cependant, moi, le fait de vouloir absolument simuler le réel, donc donner une impression qu'il n'y a pas de bord de limite. Parce que là, finalement, moi, je trouve que l'éthique du jeu vidéo, c'est la barrière qu'a montré Paul ou d'autres, j'en ai montré Fabien. C'est dire, là, je ne peux pas aller jusqu'à là. Non. Et là, pour moi, il y a le début d'une éthique de quelque chose. Parce qu'évidemment, si on te dit non à rien, on te dit un truc qui est une grosse connerie. Quoi. Parce que en fait, c'est du code. Donc, à un moment donné, ça s'arrête. Il faut qu'on te le dise, parce que c'est important. Et quelque part, c'est ça qui structure la possibilité de l'imaginaire, comme ta fin fermée te permet de ne pas être content ou être content, en tout cas dans une dynamique. Ouais. Et moi, je me suis plus intrigué par une expérience qui simule, en éduquant, parce que ça va être un objet d'éducation au sens très large du terme, si tu veux, la possibilité d'une infinie. Parce que moi, les possibles, c'est intéressant. L'infini des possibles, ça ne m'intéresse pas du tout, par contre.
Donc voilà, c'était un extrait d'une intervention d'Olivier Marbeuf lors du festival Relecture à l'espace Chiasma. Est-ce que c'est déjà une critique que vous avez déjà pu entendre autour de la réalité virtuelle, de dire au final ça reproduit tellement en fait tout ce qu'on peut voir que la place qui est laissée à l'imaginaire est extrêmement faible, et que par là même ça pourrait impliquer que ce soit pas une forme d'art intéressante?
Enfin, moi, ça me concerne Raphaël pas. Moi, ça me concerne pas. Je fais pas de jeux vidéo. Là, je vois pas.
Ouais. Du coup, par rapport à l'hyperréalisme dans le jeu vidéo, cette course à un peu aller vers la simulation ultime, elle existe depuis que le jeu vidéo existe, et on va de plus en plus vers des choses qui sont hyperréalistes. Pour autant, le jeu vidéo existe toujours parce que autour de ça, il y a aussi les infinités de possibilités d'imaginaire. Moi, c'est là où je vois plus l'infinité, c'est dans la créativité et dans l'imaginaire que dans le réalisme, en fait. Mm-hmm. Mais c'est vrai que...
Mais la tendance de fond va quand même vers l'hyper-réalisme et la reproduction. Les moteurs des gros jeux sont toujours de plus en plus sophistiqués. On a de plus en plus de... Enfin, la qualité des cinématiques et des animations 3D des gros jeux vidéo, bien sûr, ceux qui vendent, hein, je parle pas des jeux, de certains jeux vidéo indépendants, est toujours dans cette recherche du réalisme, en fait. Et là, on se demande si avec la réalité virtuelle, on n'est pas encore en train d'aller vers une autre étape de cette reproduction extrêmement proche du réel, qui est peut-être un mouvement naturel, en fait, qu'on a toujours fait.
Et qui va se rejoindre avec la réalité augmentée, qui là rajoute une couche directement sur le réel, plutôt qu'essayer de rattraper le réel par le langage programmatique. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le cerveau. Il fera toujours la différence entre la réalité et ce qu'on lui propose. Et là où c'est plus fort, et du coup, peut-être avec Raphaël, il y a une discussion qui se lance sur le réalisme. Et pour moi, la réalité virtuelle, plus on est dans un imaginaire éloigné, plus on peut se projeter et se dire « Ok, je suis dans un nouveau monde, donc je laisse faire mon imagination. » Alors que quand je me retrouve dans une caméra posée dans un pays quelconque ou dans un lieu de réalisme, là on va dire « Ah, mais la lumière, est-ce qu'elle n'est pas habituelle quand je la connais ?» La vidéo est peut-être de basse qualité alors qu'elle pourrait être de meilleure qualité. Dans un jeu vidéo, on se laisse un peu aller parce qu'on est dans un nouveau monde, quoi.
Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que quand même dans tous les cas de figure, que ce soit fiction ou réel d'ailleurs, on peut toujours parler d'hyper-réalisme, mais vous me direz ce que vous en pensez, mais la subjectivité reste pleine et entière en fait, de toute façon, que tu sois en Libye en train de filmer en VR...
La subjectivité du créateur, de toute façon...
Rien n'est neutre, dans l'hyper-réalisme.
Alors la subjectivité, c'est le journaliste qui a choisi d'aller traiter de ce sujet. Et donc, évidemment qu'il faut qu'il y ait une narration. On ne peut pas laisser un spectateur seul au milieu d'une pièce sans lui expliquer pourquoi il est au milieu de cette pièce et qu'est-ce qu'il y fait au milieu de cette pièce. En revanche, déjà comme postulat de base, tous les sujets ne se prêtent pas à la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, en fonction des sujets, apporte un plus. À la façon d'informer les gens.
Le plus émotionnel et corporel.
Et réel. C'est-à-dire que le journaliste retranscrit ce qu'il voit. Là, le journaliste, c'est juste en assemblant les 6 différents plans qui retranscrit ce qu'il a vu. Et donc, du coup, il permet à la personne, au spectateur, de découvrir de la même façon que lui a découvert cette réalité, ce sujet d'actualité, alors d'actualité chaude ou froide. Le dernier sujet que j'ai réalisé, c'est dans un campement rom à Ris-Orangis, campement qui aujourd'hui a été démantelé. Je permets à un spectateur de vivre au milieu de ce campement quelques minutes et découvrir un campement qui n'existe plus, qui a été détruit dans des conditions qui ne sont pas celles auxquelles nous sommes engagés auprès des différentes conventions. En revanche, la destruction de ce camp a impliqué que ces personnes reconstruisent un camp, alors même que ce camp existait et que ce petit village, comme il s'appelait, était vraiment viable. Alors, on détruit un camp pour qu'il y en ait un autre qui se construise à côté. Ces personnes qui souhaitent être sédentaires se retrouvent nomades par obligation. Et donc, en gros, moi, l'intérêt de cette réalité virtuelle, c'est qu'elle a montré à un instant T ce qui se passait à un endroit bien précis.
Donc, permettre de rattacher quelque part la réalité virtuelle qui permettrait de nous rattacher à la réalité, à des réalités qu'on... Et
Capter l'éphémère.
Une réalité qu'on n'aurait pas ou qu'on ne verrait plus. On a d'ailleurs appris cette semaine que des chercheurs de l'université de Dartmouth et de Birmingham étaient en train de développer des expériences en réalité virtuelle destinées aux astronautes afin d'atténuer en fait le mal du pays, enfin le mal de la Terre en l'occurrence, pendant des longs voyages d'exploration spatiale. Ce qui est l'occasion d'écouter justement Life on Mars de David Bowie, qui nous a également quitté cette semaine pour un très long voyage.
God-awful small affair, the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, and I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the old man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best.